bonsoir à vous. Voilà, je pourrais dire, est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour parler de ce sujet? Moi, c'est l'invitation du père Amaury m'a invité à revisiter un certain nombre de choses que j'avais appris, et donc j'en suis heureux. Alors, je suis désolé, je vais garder le masque, j'explique pourquoi. Donc, je suis enseignant en classe préparatoire. J'ai des élèves qu'on va accompagner vers les concours encore 2 semaines, donc j'aimerais bien rester vraiment avec eux en pleine forme jusqu'au bout. Et par contre, voilà, je vis dans un milieu où il y a pas mal de brassage, donc j'espère que vous m'entendez correctement. Merci. Donc j'ai la chance d'avoir quand même des ressources parce que je suis marié avec Hélène qui enseigne la liturgie depuis plus de 25 ans maintenant, donc ça donne quelques ressources à la maison dans lesquelles j'ai pu me replonger aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre, et là c'est pas de moi, je vais citer mes sources, quelques repères du sens de ce service, de proclamer la parole. De voir qu'il y a aussi un enjeu spirituel, alors évidemment pour l'Assemblée, et puis peut-être pour nous aussi, quand on rend ce service, et puis de revenir sur des points plus techniques, et là, là aussi j'ai repris des repères qui existent, et puis des choses un peu d'expérience, et on pourra proposer peut-être vraiment après, quand on aura eu toutes les informations, quelques-uns ou quelques-unes le souhaitent, d'essayer, et de se prêter un exercice redoutable qui est d'avoir à la fois l'oreille, le regard des autres et puis les commentaires. Il y a un autre exercice qui est peut-être encore plus redoutable, c'est ce qui m'arrive là, c'est d'être enregistré et de s'écouter après. Mais bon. Donc voilà quelques repères de sens sur la proclamation de la parole. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est là dans la liturgie depuis le début, depuis les premières communautés. Toute célébration chrétienne comporte une liturgie de la parole. C'est vrai pour l'Eucharistie dominicale que nous connaissons maintenant, c'est vrai pour d'autres sacrements. Alors, dans les petites illustrations, les disciples d'Emmaüs qui vivent ce temps de partage de la parole, et ils sont mystérieusement rejoints par le Christ qui explique pour eux la parole, et puis ça se poursuit avec la fraction du pain. Le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe, Philippe le rattrape, s'arrange pour être pris dans le char, lui expliquer les lectures d'Isaïe qu'il est en train de regarder, et puis ça se termine par le baptême. Donc voilà, dès le début, nous avons cette liturgie de la parole. Et c'est un objectif qui a été redonné par le Concile Vatican II, donc de restaurer une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée, mieux adaptée au peuple des chrétiens. Et ça a été repris aussi, je vais citer le pape Benoît XVI au pasteur, demandant de diffuser les moments de la célébration de la parole, surtout dans les temps forts de la liturgie, l'Avent et Noël, le Carême et Pâques, à l'occasion des pèlerinages, des fêtes particulières, des missions, des retraites spirituelles, etc. Donc la liturgie de la parole, on va dire dans toutes nos célébrations. Et ça n'est pas n'importe quelle parole. Ah oui, on dit la parole de Dieu. Alors, peut-être une remarque. On dit quelquefois religion du livre. Non, c'est pas une parole figée dans un livre, c'est une parole vivante. Donc, Dieu, c'est quelqu'un qui se communique, qui se révèle. Alors, dans Saint Jean, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et donc, quand on dit parole de Dieu, eh bien, ça aussi nous est expliqué, révélé par le Christ. Donc, la parole de Dieu, alors ça, j'ai été recherché aussi hein, dans mes lectures, c'est l'acte de Dieu qui s'approche de nous pour nous chercher, pour nous sauver. Et nous lisons les Écritures pour nous mettre à l'écoute de Dieu qui nous parle. Et la parole de Dieu, eh bien, dépasse justement cet écrit qu'on trouve dans la Bible. Ça dépasse la mise par écrit des textes. Et là, c'est une citation de Saint Grégoire le Grand, deux citations, qui ont été reprises après pour dire, orienter et faire penser aussi l'exégèse. Plus un saint progresse dans l'écriture sacrée, plus l'écriture même progresse avec lui. Et les révélations divines croissent avec celui qui les lit. La parole de Dieu n'est pas figée en quelque sorte. Et là, une expérience personnelle. Avant de rejoindre l'Île-de-France, j'ai fait partie de CVX pendant des années dans le Nord, et on était accompagné par un prêtre retraité, donc il avait passé 80 ans. Et dans nos rencontres, il y a un temps de prière autour d'un texte de la parole. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que régulièrement, le père Jean-Tac, passé 80 ans, nous disait « Tiens, ça, j'avais pas encore vu. » Voilà, une parole qui, en quelque sorte, grandit avec celui qui les lit. Et parole de Dieu, ben oui, ça se manifeste aussi dans nos liturgies, parce que après la lecture, on y reviendra tout à l'heure, on va proclamer parole du Seigneur. Et l'assemblée acquiesce, parce que nous avons accueilli la réalité vivante de Dieu, qui vient à notre rencontre, qui vient s'entretenir avec nous. En tant qu'assemblée, nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour aller plus loin, je cite Vatican II, à la messe, la présence du Christ, à la fois dans la liturgie de la parole, et évidemment dans l'Eucharistie. Donc, il est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Alors, pour moi, ça fait écho, cet épisode des disciples d'Emmaüs. Ils discutaient entre eux, et le Christ les rejoint et commente avec eux la parole. Et donc, alors il y a un sigle, la PGMR, c'est la présentation générale du missel romain. Et donc, la messe comporte comme deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Enfin, je suis désolé, je lis, vous l'avez sous les yeux. Elles sont si étroitement liées qu'elles forment un seul acte de culte. En effet, la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés. Et on l'a aussi avec le Concile Vatican II, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie de la table de la parole de Dieu et de celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Donc dans nos liturgies de la parole, le Christ est déjà présent. Et à la fin du texte sur les disciples d'Emmaüs, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ce qui a fait dire à Saint Jérôme, eh bien, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et là, je reprends, vous vous souvenez peut-être que le pape François a institué un dimanche de la parole de Dieu. Pourtant, nous vivons la parole de Dieu tous les dimanches. Et il dit, donc, la relation entre le ressuscité, la communauté des croyants, et l'Écriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. Pourtant, le contraire est tout aussi vrai. sans l'écriture sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. Et il recite saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc la Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l'unité. La parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. Voilà, donc il y a du sens hein, dans que le service que nous rendons en proclamant la parole de Dieu, rendre le Christ présent, enfin rendre, il l'est, quand deux ou trois sont réunis en son nom. Et ben, ça, c'est pour moi une expérience spirituelle, à la fois pour l'assemblée et pour le lecteur, proclamer une parole ben, qui n'est pas la mienne, et qui va trouver son chemin dans les cœurs. Puis, il y a quelques jours, pendant que je pensais à ce que j'allais pouvoir dire, il y a eu un texte dans les lectures du jour qui est Isaïe, chapitre 55. « Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Bel objectif que nous donne là le Seigneur pour proclamer sa parole. Et donc, ah voilà, c'est un service, et vous le savez, et vous le vivez, qui se prépare. Alors, qui se prépare avec la tête, qui se prépare avec le cœur, qui se prépare peut-être aussi physiquement. Bah, quelques points de repère. Bah, d'abord, prendre connaissance du texte, évidemment. Et pas seulement, je dirais, de celui que l'on va être amené à proclamer. Regardez tous ceux du jour. Puis, c'est articulé, il y a des liens entre les textes. Alors, vous connaissez les sources, il y a un missel si on en a un, il y a des sites ou des applications, donc j'ai remis la ELF, alors je sais qu'on est un certain nombre à avoir ça sur nos téléphones pour avoir soit les lectures du jour, soit la liturgie des heures. Bon, et puis vous connaissez certainement aussi Prions en Église ou Magnificat. Et voilà, donc avoir le texte, et puis une première compréhension du texte. Puis quelquefois, on a des textes, on ne sait pas trop, on se dit « Oh là, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est un peu compliqué. » Bon, si on est à l'avance, on a le temps de se renseigner. Alors, si on a à la maison, ce qui est normalement une fort bonne chose, une Bible avec des notes, on peut aller regarder une Bible avec les notes. Puis quelquefois, ça peut être simplement de la curiosité. C'est qui ce prophète Baruch, c'est qui l'Ecclésiaste, ça a été écrit quand, tout ça. Quand on dit lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, c'est qui cette communauté, voilà. Alors, a priori, quand on va chercher les notes d'une Bible, on est à peu près sûr de la fiabilité des informations. Attention à certains sites, si on fait juste une recherche internet, il vaut mieux savoir et se renseigner de qui on prend les renseignements. Voilà, donc, compréhension du texte. Et puis, on peut déjà repérer, c'est quoi le style du texte ? Est-ce que c'est... Alors, une parabole, c'est plus rare, c'est plutôt dans l'Évangile, mais encore quelquefois dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a même des contes. Est-ce que ce texte, c'est une exultation de joie ? Est-ce que c'est un prophète qui prend les gens à rebrousse-poil et qui fait une vigoureuse interpellation ? Est-ce que c'est un enseignement ? On ne va peut-être pas lire ça de la même façon. On ne va pas lire de la même façon « Debout Jérusalem, resplendit, elle est venue ta lumière » et « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il y aura encore autrement un encouragement de saint Paul à une communauté chrétienne. Donc, voilà, des repères pour comprendre le texte. Il n'apprend pas grand-chose. Et puis, une autre préparation, bah, c'est de prier ce texte, de le ruminer, qu'il fasse son chemin en soi, qu'il fasse son chemin en moi. La petite image, c'est Ézéchiel mangeant le livre. Je disais ruminer la parole, ruminer sa lecture. Il y a un texte d'Ézéchiel qui... Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle, ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Puis à la fin, je le mangeais et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Cette parole que l'on rumine. Et puis aussi, bah, peut-être une préparation un peu plus physique. Alors moi j'ai tendance bah, à le lire à l'avance à voix haute, et puis à le lire debout, et puis éventuellement s'il n'y a pas de risque de tomber, bah, de le lire en marchant. Là j'ai évité de commencer à déambuler. Le lire en marchant, pourquoi? Bah, parce que ça oblige à respirer. On va y revenir dans des points pratiques. Alors dans la préparation... Il y a aussi des points techniques. Il y a aussi des points techniques qu'on peut relister. Il arrive qu'il y ait des noms un peu compliqués dans des lectures, des villes dont on n'a pas l'habitude, on ne sait même pas où ça se trouve, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Donc, voilà, prendre le temps de se renseigner, de vérifier comment on prononce tel ou tel nom. Ce qui évite ce que j'ai déjà entendu d'avoir une lecture du livre de Job et de parler du prophète Michée. Donc, désamorcer les noms un peu compliqués, ça fait pas de mal. Alors, se poser la question, quel ton vais-je utiliser? Alors, sachant que forcément le ton sera sobre. On va proclamer la parole de Dieu, c'est pas du théâtre. On va pas mettre des effets extraordinaires. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une différence entre debout Jérusalem, réjouis-toi, et puis malheur à vous. Pensez que ce sera sobre, mais quelle nuance on va donner? Ton sombre, mais lequel? Bon, il y a de la ponctuation. Et puis la ponctuation, ça va nous aider à respirer. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience de telle ou telle lecture de Saint Paul, où on se demande s'il n'y aurait pas une seule phrase dans toute la lecture, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas en finir. Et là, il faut vraiment prendre le temps à l'avance de regarder la ponctuation, de dire là, je vais pouvoir reprendre mon souffle, avant de proclamer la suite et de voir comment tout ça va se mettre en place. Et répéter à l'avance. Répéter à l'avance plusieurs fois, je pense pouvoir dire, on ne sera jamais trop lent dans le débit de parole que nous allons adopter. Ça peut paraître surprenant. Tout à l'heure, je vous ai lu le texte d'Isaïe avec la comparaison entre la parole de Dieu et la pluie qu'il envoie sur la terre et qui doit pénétrer. Eh bien, moi j'ai un peu cette image. La parole que l'on va proclamer, il faut qu'elle ait le temps, comme une petite pluie, de pénétrer dans les têtes et dans les cœurs, et que ça ne soit pas un seau d'eau qu'on lance ou une giboulée qu'on déclenche. Peut-être que vous avez déjà entendu des lectures en disant ah, c'est déjà fini, parce que on a eu un débit qui était. Voilà, c'était trop rapide. Donc, j'ai l'impression qu'on ne sera jamais trop lent, laisser le temps à la parole. Forcer un peu l'articulation, alors surtout si on garde le masque, mais ça j'espère qu'on sera bientôt débarrassé. Donc, forcer l'articulation, forcer un peu les consonnes. Et c'est la même chose qu'on dit pour quand on doit psalmodier, quand on doit chanter le psaume. C'est un texte. S'il manque les consonnes, eh bien, à l'audition, à la compréhension, ça va être un petit peu gênant. Donc, ne pas avoir peur de forcer un petit peu l'articulation, les consonnes. Et puis, il y a évidemment, comme dans toute lecture, les syllabes à accentuer. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Alors, il y a deux choses. Il y a les voyelles, il y a les consonnes, il y a les consonnes, bon, ok. Il y a les syllabes sur lesquelles on a un peu appuyé. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un rythme aussi qui se met en place. Et ça, c'est là, plutôt mon expérience. À force de répéter la lecture que l'on va proclamer, on rentre dans un certain rythme qui fait que ça va couler assez naturellement. Tout ça, c'est avant. Alors, sur place. Alors, sur place, moi, je recommande quand même, avant le début, ce qui suppose qu'on soit arrivé, ça suppose avant que l'on soit arrivé, d'être à l'heure et pouvoir faire le déplacement, c'est d'aller voir le lectionnaire, c'est tout bête. D'aller voir le lectionnaire, de vérifier qu'il est à la bonne page. Normalement, souvent c'est le cas parce qu'on a des bons sacristains qui ont mis à la bonne page à l'avance, donc on retrouve la lecture qu'on a préparée. Puis il y a des petits repères, comme là je vois, il va falloir tourner la page. C'est tout bête, mais surtout si c'est au milieu d'une longue phrase de Saint Paul, il ne faut pas rater le fait de tourner la page. Donc peut-être que c'est pas mal dans ce cas-là, eh bien, de venir placer le petit repère pour n'avoir qu'à tourner la page quand on a besoin, c'est tout bête. Bon, donc ça, c'est prendre ses repères dans le lectionnaire, mais là encore, c'est à l'avance.
Alors, si on compare avec l'efficace au prix en ligne.
Tout à fait, la mise en page et les sauts de ligne, etc., sont beaucoup plus lisibles sur le lectionnaire, c'est quand même fait pour. Et j'aurais pu le montrer, visuellement, vous le voyez, quand il y a une phrase qui commence, ça va pas à la ligne alignée, on sait que visuellement, qu'on doit continuer, que la phrase va se poursuivre. Donc c'est bien, dans le contrôle, de revérifier ça, comment c'est mis en page, tout à fait, sur le lectionnaire.
Avec une insistance particulière pour la nuit de Pâques, pour la vigile pascale, où on ne prend pas toujours l'intégralité des lectures, et donc on peut en sauter l'une ou l'autre dans le lectionnaire, donc elles sont numérotées. Ça ne correspond pas forcément à la succession qu'on a sur nos livrets, donc voilà, c'est important de voir ça.
Alors, je vois que normalement les pages sont numérotées, donc on peut même repérer à quelle page on doit aller pour vérifier qu'on est sur la bonne lecture. Ça, évidemment, à l'avance. Et voilà, après, il y a le service que l'on va rendre pendant la célébration. Bon, nous avons l'habitude, il y a l'inclinaison devant l'autel avant de se rendre à l'ambon. Ça marque aussi le lien entre les deux tables dont on parlait tout à l'heure, la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Et puis, il y a se mettre en place. Alors, se mettre en place... Je vais bouger un petit peu. C'est aussi à quelle distance de l'ambon je vais me placer. Les pieds légèrement écartés pour être bien en équilibre. Vérifier mon micro, à quelle distance est-ce que je vais devoir le monter, le redescendre, pour être à peu près à une vingtaine de centimètres du micro. Donc, se placer, être à l'aise. Et puis, respirer un bon coup, respirer profondément, et respirer avec le ventre, comme les chanteurs, pour avoir une profonde inspiration, de façon à avoir du souffle pour la suite. Et moi j'aime bien, avant de démarrer, penser aux personnes qui sont au dernier rang. Vous voyez, la parole doit aller... jusque là-bas. Alors, même s'il y a une sonorisation, même s'il y a le micro, même s'il y a la sonorisation, ça veut dire que on va se tourner naturellement, sans écraser la gorge, vers le lectionnaire. Et puis, on commence par annoncer la lecture. Donc, par exemple, lecture du livre de la Genèse. Et déjà là, écoutez. Est-ce que ça résonne dans l'église ? Normalement, on doit s'entendre aussi dans la sono, et ça permet de se rendre compte, est-ce que je vais être entendu? Est-ce que pour la suite, je dois parler un peu plus fort, me rapprocher un peu du micro? Est-ce que, au contraire, ça n'en finit pas de résonner, donc on va rebaisser un petit peu et pouvoir proclamer la lecture proprement dite. Alors, il y a un petit repère dans la proclamation. Là, ça dépend. Mais moi, j'aurais envie de dire, on ne va pas... Alors, j'ai oublié quelque chose, pardon, avant. J'ai dit, pensez aux personnes du fond, mais avant de démarrer, c'est tout bête, c'est être sûr qu'on va être entendu, c'est-à-dire que les personnes ont fini de s'asseoir, si c'est après le psaume que les musiciens ont fini de poser leur instrument et ont pu se réinstaller aussi, il peut y avoir quelques secondes de silence, ou justement, où c'est pas encore le silence, autant attendre que le silence soit revenu pour proclamer dans de bonnes conditions. Donc, proclamer dans de bonnes conditions. Alors, je vais redétailler des choses ensuite. Puis, avant la conclusion parole du Seigneur, laisser un petit temps de silence. On laisse résonner la parole dans les cœurs. Et puis, on va proclamer parole du Seigneur. Et bon, à la suite de ça, effectivement, il y aura le petit temps où on va quitter l'ambon, donc à nouveau s'incliner devant l'autel. Éventuellement, si c'est la première lecture, en même temps que le psalmiste, si c'est là où le psalmiste, en même temps que là où la deuxième lectrice ou deuxième lecteur, ce mouvement que nous faisons ensemble. Alors, la lecture proprement dite, ce sont des repères qu'on connaît, on essaie de s'en souvenir. Il y a la posture, donc on en a parlé tout à l'heure, être à l'aise, respirer, donc respiration ventrale, pour ne pas être essoufflé, surtout si on a des phrases longues. Il y a la voix, donc ça j'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc la stabilité, le micro, ses lunettes, ne pas avoir oublié ses lunettes, et puis a priori sans regarder l'assemblée. Alors, a priori, sans regarder l'Assemblée, ça peut sembler bizarre, parce que je suis en train de proclamer pour l'Assemblée, mais sans chercher le regard avec l'Assemblée. Là, c'est juste un avis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'Assemblée, alors, soit écoute les yeux fermés, dans ce cas-là, du point de vue des regards, la question est réglée, soit regarde vers l'ambon, et que voit l'Assemblée, le lecteur, tourné vers la parole, vers la lecture. Et le point de mire, dans ce cas-là, c'est bien la parole de Dieu. Puis ça évite de chercher les réflexes plutôt de prof, le regard pour voir si on est bien entendu, bien compris, et puis après de dire où j'en étais dans le texte déjà en replongeant. On reste dans le texte, on ne se perd pas en route.
En fait, on ne regarde pas l'assemblée aussi parce que ce n'est pas nous qui nous adressons à l'Assemblée.
Tout à fait.
C'est la parole qui passe.
Donc, ouais. Le point de mire, c'est la parole, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça que ça peut être aidant aussi de, quand on annonce la parole, lecture de la deuxième lettre.
Là,
on regarde.
On peut regarder.
Et à la fin, parole de
parole
Dieu,
voilà.
On regarde aussi.
Et donc, quand on annonce lecture de la lettre de saint Paul, en même temps, on vérifie qu'on est entendu correctement. S'il y a quelqu'un qui fait signe, on sait aussi qu'il va falloir adapter les choses. Mais effectivement, après, ce n'est pas notre parole. Après, il y a la proclamation à la fin. Vous voyez, vous savez déjà tout. À propos de la voix, on a une tessiture naturelle. Normalement, c'est la voix qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, on n'a pas forcément de raison d'en changer pour proclamer la lecture. On ne va pas se mettre à parler plus aigu parce que, je ne sais pas pour quelle raison, ou chercher une voix nettement plus grave que la voix habituelle, parce que dans les deux cas, on va se fatiguer. Donc, on garde la tessiture habituelle. J'ai déjà dit, et je réinsiste, lentement, laisser arroser, pénétrer, résonner dans l'Église, mais surtout résonner dans les têtes et dans les cœurs. La respiration, pour pouvoir ensuite respecter le rythme du texte, les ponctuations du texte. Le ton, alors on l'a déjà dit, on pourra peut-être s'entraîner tout à l'heure, ça reste sobre. Même si on met des nuances, ça va rester sobre, et sans baisser la voix à la fin des phrases. Alors, qui serait quelque chose de naturel, qu'on a appris à l'école, de baisser quand on arrive au point. Sauf que là, justement, c'est pas seulement une lecture, c'est une proclamation. Et le fait de ne pas baisser à la fin, le texte reste en tension. Et s'il reste en tension, bah, je reste attentif, et je continue à le laisser me triturer dans la tête et le cœur. Ne pas avoir peur des silences. Les petits silences, les petits silences, peuvent faire partie de la lecture. Simplement parce que bah, y a des personnages qui se déplacent, par exemple, dans l'histoire qu'on est en train de lire. Okay, on fait une micro-pause, on leur laisse le temps de se déplacer. Ou on change d'interlocuteur, bah, on fait une micro-pause pour puisse signifier qu'on a changé d'interlocuteur, etc. Quelquefois, je pense qu'on a peur de laisser du silence. On laisse résonner, puis surtout si c'est un silence qui donne du sens. Ah, et si on bafouille, et si on se trompe? Bah, si on se trompe, c'est pas grave que celui qui n'a jamais bafouillé jette la première pierre. On se lance pas dans des excuses, c'est pas le lieu. On reprend en arrière, soit la phrase complète, si on est au début, soit le bout de phrase, et puis c'est tout. C'est pas grave, on reprend calmement en arrière pour repasser le petit obstacle. Et ce que je vous souhaite, donc là après on avait dit ce qu'on faisait à la fin de la lecture, ce que je nous souhaite aussi, c'est de pouvoir, quand on proclame la parole, quand on rend ce service, finalement d'oublier tout ce que je viens de dire, toute la technique, tous les aspects techniques, et simplement, avec l'assemblée, recevoir la parole. Alors, je vous souhaite de vivre ces petits moments de grâce, ça ne marche pas à tous les coups, et de dire, bah voilà, j'ai proclamé la parole, et je l'ai reçue. Et ça, moi je trouve ça très beau comme expérience. Et là, on revient sur l'enjeu spirituel. Alors, voilà ce que j'avais préparé pour vous.
Et ce moment de grâce, il est finalement, on peut comprendre qu'on peut y accéder d'autant plus facilement que l'on a préparé la lecture, donc on a pénétré, on y est dedans, et donc on la reçoit d'autant plus facilement.
Oui, tout à fait. Et puis en ayant préparé, bah, on a fait des points techniques, des automatismes, et donc on a moins besoin d'y faire attention aussi. Je suppose que ça vous est tous arrivé, de, si vous conduisez une voiture, de dire « Tiens, je suis arrivé ici, j'ai fait des choses en pilotage automatique. »
Par où je suis passé.
Par où je suis passé, où j'ai déjà passé tel carrefour, en toute sécurité, c'est bizarre, je ne m'en souviens pas. Donc on oublie toutes les procédures automatiques pour aller se focaliser sur l'essentiel. Ça, ce sont de beaux moments. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des points, des compléments aussi, parce que j'ai peut-être oublié des choses.
Je voulais dire, quand m'arrive de proclamer la parole, avant de la proclamer, je prends un tout petit instant de prière et je demande à Dieu de m'aider à lire cette lecture. Je confie cette lecture, ça m'enlève un peu le trac.
Une partie qui est difficile aussi, c'est les liaisons. Parfois, on loupe les liaisons.
Alors, il y a les liaisons, j'ai oublié de dire ça. Il y a des liaisons, il y a des terminaisons de mots. Parce qu'il y a toujours le souci des « e » qu'on ne prononce pas, des « e » muets en fin de mot. Alors, lecture du livre de la Genèse. Le « e », on ne va pas le prononcer, mais il faut quand même prononcer la dernière syllabe, parce que sinon, on a un « genet » et pas « genèse ». Voilà, donc c'est quelque chose à trouver en lien avec ce que je disais sur le fait de mettre les consonnes, mais évidemment pas genèse, ça va pas non plus. Alors dans le défrichage au départ, il y a aussi repérer les vraies liaisons et les liaisons mal à propos. et voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la préparation.
Oui, vous avez dit « on n'est jamais trop lent ».
Oui.
Eh bien, une fois à une autre formation, où j'avais lu, c'était ma période, c'était une période où j'aimais lire lentement, et c'était le père Loïc Bellan qui m'avait fait remarquer que j'avais lu trop lentement. Ah. Et c'est vrai qu'après, ça, je remarquais que quand la lecture était trop lente, et la lecture à la messe, enfin à la célébration, eh bien effectivement, la lenteur, moi qui écoutais, eh bien la lenteur me faisait que j'étais un peu impatiente. Il va trop lent. D'accord. Donc en fait, il y a quand même une limite.
Oui, oui, il y a quand même une limite. Ouais. Voilà, il faut quand même garder un certain rythme, ce que je disais, ouais, où ouais. On trouve le rythme pour que ça coule.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, et pour que ça coule, pas que ce soit... C'est pas un torrent de montagne non plus.
J'ai une autre question, c'est pour le micro. Le plus difficile, je trouve, c'est positionner le micro, parce qu'on ne sait pas à quel micro on a affaire, c'est-à-dire quel va être le rendu. Et à Vernouillet, en ce moment, eh bien, je trouve que le micro est violent. Alors, c'est très bien, très très bien pour les voix fluettes, mais pour les voix plus fortes, en général, on arrive, et puis tout de suite, on est obligé de se reculer. Voilà. Mais voilà.
C'est tout à fait. Et c'est la remarque en disant, bah, quand j'ai annoncé la lecture, si j'entends que c'est trop fort, on peut même reculer un peu de l'embon.
Mais enfin, quand même, le micro de Vernouillet, je trouve que
et après,
il est bien pour les voix fluettes, il est vraiment formidable.
Après, on peut le signaler aussi pour trouver
un
réglage. Alors, ça aussi, on pourrait aller jusque-là, et je pense pour des célébrations comme Pâques, où il y a vraiment un enjeu, etc., de répéter les lectures au micro. De répéter les lectures au micro, parce que là, on a vraiment...
Oui, si l'église est vide, le son est différent. Dans une église vide...
Ça, on est tout à fait d'accord. Et ça veut dire qu'il faudra que ça soit plus fort. Ça va sembler trop fort dans l'église vide, ouais. Parce qu'après, on sait que ça va être amorti par l'assemblée. Le son va être feutré, amorti par l'assemblée.
C'est pas facile.
Mais voilà, ouais.
Le micro, c'est pas facile.
C'est vrai que c'est plus vrai dans les messes de semaine. Mm-hmm. Parce qu'il y a moins de monde. Ça ressort.
Pour le micro, il y a toujours une distance à répéter, quel que soit le micro, généralement. Les
micros d'église, souvent, c'est au moins une vingtaine de centimètres.
Même les micros de Notre-Dame, de l'école Notre-Dame.
Alors là, j'avoue, je n'ai pas retesté. Alors après, il y a des micros dont il faut se méfier s'ils sont trop directifs. Parce qu'on change de page, et puis l'assemblée n'entend plus du tout la même chose. Juste parce qu'on s'est décalé de 10 cm sur le côté.
Vous avez parlé tout à l'heure de certains textes de Saint Paul où les phrases sont un peu longues. Mais bon, ça se lit quand même. Mais le plus difficile, je trouve, c'est certains textes, en semaine notamment, de l'Ancien Testament, où il y a des phrases, où il y a plusieurs personnes qui l'ont construite, la phrase. Mmh. Et quand vous avez une lecture d'une page à lire devant 100 micros, devant, comme assemblée, des personnes âgées, c'est pas évident à faire. Parce qu'il n'y a pas de ponctuation, c'est difficile.
En fait, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui sont plus des compilations et où on a des redites. Et c'est vrai que ça demande d'anticiper.
La liturgie fait des coupures.
Ah, oui, alors après, il y a le fait que quand on va voir dans la Bible, on s'aperçoit que quelquefois, on n'a pas l'extrait complet enfin, à la suite. Qu'il manque un morceau de verset, ou qu'on a pris un morceau, et puis la suite, quelques versets plus loin, etc. Là, ce sont les textes liturgiques.
C'est à vous de lire le texte liturgique.
Voilà.
Je trouve ça important ce que tu dis sur l'articulation des consonnes, par exemple. En particulier, quand on est, moi je fais l'expérience de l'église de Verneuil, parce que quand je suis derrière un pilier, c'est très important ça, parce que je ne suis pas devant, donc je ne vois pas forcément les lèvres bouger. Et donc, voilà, c'est, quand on entend bien dans ce, derrière un pilier, et si le lecteur a cette attention-là de prononcer assez fort et en articulant, très important.
Je pense à un autre point d'attention, c'est ça peut arriver qu'on ait besoin de se racler la gorge ou de tousser, mais dans ce cas, c'est bien de se mettre un peu de côté.
Que, sortir du micro.
On est droit à un ouragan dans le micro, mais c'est un micro, un tel afflux de souffle, d'un coup ça.
Ça réveille.
Là, après, je sais pas, peut-être qu'on peut donner la suite des informations, enfin, sauf s'il y a d'autres partages.
Sur, pour revenir au micro, je me demande s'il ne faudrait pas que le lecteur pense qu'il doit s'adresser à toute l'assemblée et qu'il n'a pas de micro, quitte à ce qu'il prenne du recul vraiment, et ça l'oblige à ce moment-là, à ce que tu disais, à penser déjà jusqu'au bout, toute l'assemblée est prise. Et ça oblige à une articulation encore plus forte. Si on se dit, oh, de toute façon, j'ai le micro, à la limite, on va bouffer le micro, et on ne mourra plus rien.
Parce qu'on aura bouffé le micro.
À
Vernouillet,
tu ne peux pas bouffer le micro. Hein.
Pardon ?
À Vernouillet, tu ne peux pas bouffer le micro. Ben
non,
à
Vivos, c'est... Non, mais on peut reculer le micro.
Ouais,
on peut reculer le micro.
C'est pour ça que moi, ma position, souvent, c'est un peu à distance de Lambon. Pour être un peu loin du micro, mais bon, c'est vrai que j'ai l'habitude du coup à porter la voix, parce que je passe mes journées à parler sans micro pour des gens qui sont plus loin que vous, au fond. Donc,
c'est pour ça que je trouve paradoxal, mais vous semblez tous d'accord, que je dois rester concentré sur le texte. Quand j'étais ado, moi, on m'a appris à en fait regarder au-dessus du dernier rang, de façon à me dégager et vraiment être sûr que ma parole porte bien. Donc c'est, voilà, en termes de technique, j'étais jeune en Alsace, alors je ne sais pas si à Strasbourg on enseigne différemment, mais le sacristain qui m'avait appris à lire mes premiers textes me demandait justement de me détacher du texte et de regarder au-dessus du dernier rang de façon à être sûr que je... Alors, j'étais jeune, c'était aussi parce que j'avais une voix d'enfant, j'avais 8 ans, de façon à justement être sûr que ma parole soit...
Alors, je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que si j'ai le micro, moi, je n'ai pas baissé la tête pour lire. C'est-à-dire que je vais rester droit en pensant aux gens du fond, mais c'est les yeux qui vont baisser, qui vont être baissés sur le lectionnaire. Ce qui fait que c'est vrai, la parole, elle est vraiment vers le fond de l'église, quelque part qu'il y ait micro ou pas. Par contre, le regard, lui, je n'ai pas cherché
oui,
le contact.
Oui, on ne cherche pas, voilà, on cherche pas dans l'assemblée à capter le regard de l'église.
Donc après, j'ai quelques textes en réserve si on veut s'entraîner tout à l'heure.